ce matin, j'ai pensé qu'on pourrait tourner ensemble nos Bibles dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, donc à la fin du Deutéronome, la fin du Pentateuque, des cinq premiers livres de la Bible. Étudier un passage que j'ai intitulé « Le dernier appel de Moïse, pasteur d'Israël ». Donc Deutéronome, chapitre 30, et des versets 11 à 20. Pour commencer, je vais lire le texte. Les commandements que je vous communique aujourd'hui ne sont pas trop difficiles à comprendre, ni hors d'atteinte pour vous. Ils ne sont pas au ciel pour qu'on dise « Qui montera au ciel pour aller nous les chercher et nous les communiquer, afin que nous puissions les mettre en pratique ?» Ils ne sont pas non plus au-delà des mers pour qu'on dise « Qui traversera les mers pour aller nous les chercher et nous les communiquer, afin que nous puissions les mettre en pratique ?» Non, cette parole du Seigneur est tout près de vous, dans votre bouche et dans votre cœur, et vous pouvez la mettre en pratique. Israélites, voyez, aujourd'hui, je place devant vous la vie et le bonheur d'une part, la mort et le malheur d'autre part. Prêtez donc attention aux commandements que je vous communique aujourd'hui. Acceptez d'aimer le Seigneur votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace, d'obéir à ses commandements, à ses lois, à ses règles, alors vous pourrez vivre. Vous deviendrez nombreux et le Seigneur vous comblera de bienfaits dans le pays dont vous allez prendre possession. Mais si vous vous détournez de lui, si vous lui désobéissez, si vous vous laissez entraîner à adorer et servir d'autres dieux, vous disparaîtrez complètement, je vous en préviens dès aujourd'hui. Vous ne resterez pas longtemps dans le pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui, le ciel et la terre m'en sont témoins. Je place devant vous la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisissez donc la vie, afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. Aimez le Seigneur votre Dieu, obéissez-lui, restez-lui fidèlement attaché. C'est ainsi que vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur a promis de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Donc je vous invite à prier. Père, on te loue, on te remercie pour ta parole. Parce que juste quand on dit ça, on comprend que tu nous parles. Toi, le Dieu Tout-Puissant, tu dis quelque chose et on peut entendre. C'est une grâce immense. Que ce soit des commandements, des psaumes, des instructions, des principes du Nouveau Testament. Ta parole est complète, elle est diverse et il y a tellement de choses à apprendre sur toi. Et au travers d'elle, tu nous instruis. Et tu nous aides à te comprendre mieux. Tu nous attires à toi. Et tu nous donnes une unité aussi en tant qu'Église, alors qu'on marche après toi. Père, ce matin, on te prie de nous guider dans l'étude de ta parole, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous toucher, nous aider à devenir toujours de meilleurs adorateurs de ton nom, parce que tu mérites le meilleur de nous. Sois loué dans tout ce que nous lisons, dans tout ce que nous pensons ce matin, c'est notre prière. Amen. Donc ce matin, je me lance un peu dans un texte. Il n'y a pas de contexte. Je ne sais pas si vous avez lu le Deutéronome cette semaine. Ça tombe un peu comme ça. Je ne sais pas si, quand vous étudiez un texte, si vous avez une façon un peu d'aborder quelque chose. Moi, j'aime bien passer par trois étapes. Si je me lance dans un texte comme ça, il y a trois étapes qui m'aident à étudier un texte et qui m'aident aussi à le partager avec d'autres personnes. D'abord, je regarde un peu le contexte. Alors, on est à la fin du Deutéronome 30. Quel est le contexte littéraire dans lequel je me trouve? Et peut-être, ça a été écrit, le Deutéronome, il y a plus de 3000 ans. Est-ce qu'il y a un contexte culturel qui peut m'aider à comprendre ce que je lis? Ma deuxième étape, c'est « Ok, j'ai ce texte en face de moi, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il me raconte ? Quel est le sens de ce texte ?» Et troisièmement, ben, avec tout ça, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans ma vie ? On peut appeler ça des trajectoires théologiques ou simplement des applications pour nous dans nos vies. Donc pour commencer, on va parler un peu du contexte littéraire et culturel. La fin du Deutéronome, c'est en fait assez particulier. Parce que le Deutéronome, c'est aussi le cinquième livre du Pentateuque. Donc au chapitre 30, à la fin du Deutéronome, on est à la fin du Pentateuque en entier, à la fin du Deutéronome, qui est une série de trois discours, et donc aussi à la fin du troisième discours de Moïse. Donc c'est un peu un summum, c'est un sommet d'un séminaire, en fait, on pourrait dire, de Moïse, le pasteur d'Israël, qui a sa dernière chance avant que le peuple d'Israël rentre dans le pays de Canaan. Il a sa dernière chance pour leur rappeler qu'est-ce que Dieu a fait pour eux. Il fait ça surtout dans le premier discours, de s'investir dans leur relation avec Dieu et aussi de leur rappeler la loi, la sagesse de Dieu, comment pouvoir vivre en relation avec lui dans son alliance. Ça, c'est le deuxième et troisième discours. Donc c'est un contexte assez particulier. Ce sont en fait les derniers mots de Moïse au peuple d'Israël à proprement parler. Il y a aussi le cantique de Moïse à la fin, la bénédiction des différentes tribus d'Israël. Mais là, c'est vraiment son cœur de pasteur qui ressort à la fin de je ne sais pas si c'était une semaine ou combien de temps ça a pris pour faire tous ces discours. Mais c'est un peu, je le compare comme un prédicateur qui lance son dernier appel, peut-être l'appel à lever la main à la fin de message qui a vraiment bien communiqué. Donc c'est un peu un summum de ce séminaire du pasteur Moïse et un peu un appel à prendre une décision, comme on l'a lu tout à l'heure. Donc c'est la fin du troisième discours qui est un peu particulière aussi, parce qu'on en... On ne connaît pas forcément toujours cette partie de la Bible, mais à la fin du troisième discours, Moïse sait exactement ce qui va se passer dans l'avenir, dans l'histoire d'Israël. Et je ne sais pas comment il le sait, mais au travers de la révélation peut-être de Dieu et de sa connaissance du peuple d'Israël, il sait que Dieu qui a à cœur Israël, il renouvelle son alliance avec Israël, mais il sait que dans le futur, il y aura encore la désobéissance d'Israël. Il y aura un exil, mais il y a aussi le retour de l'exil à cause de la désobéissance. Et c'est à la lumière de cette présentation un peu eschatologique, on dirait, qu'il donne ses exhortations finales. On sait ce qui va se passer, mais aujourd'hui, vous, Israël, en tant qu'unité et en tant que personne, quel sera votre choix aujourd'hui? Donc c'est un peu comme ça qu'on finit le troisième discours. Donc c'est un peu complexe, c'est la fin du Deutéronome, c'est la fin du troisième discours, c'est aussi la fin du Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible. Donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, on peut les regrouper ensemble en une unité qu'on appelle le Pentateuque, et souvent les gens disent c'est un peu l'héritage que Moïse nous a donné. En tout cas, il y a une unité littéraire dans ces cinq différents textes, et en particulier à la fin du Deutéronome, on voit certains parallèles avec le tout début du Pentateuque, avec le livre de la Genèse. En Deutéronome 30 au verset 19, Moïse appelle le ciel et la terre comme témoins, et bien sûr en Genèse 1 à 3 on a la création du ciel et de la terre. En Genèse 2, 15, on a cette expression qui dit que Dieu nous a créés donc pour nous placer dans le jardin, pour le cultiver. Il y a différentes façons d'interpréter ce texte, d'une façon ou d'une autre. Dieu nous a créés pour servir Dieu, pour faire ce qu'il nous demande aussi, et le choisir Dieu et le servir. Là, on a un appel à choisir Dieu, à s'attacher à lui. En Genèse 1, verset 28, Dieu bénit l'homme et lui dit « Soyez féconds, multipliez-vous ». Et de la même façon, Dieu dit, si vous choisissez le bien, je vais vous bénir quand vous rentrez dans la terre promise, dans la terre de Canaan. Et vous allez vous multiplier en tant que nation et vous allez durer dans cette terre bénie de Canaan où coule le lait et le miel. Et dans certaines parties du Deutéronome, particulièrement au chapitre 8, on a un peu une idéalisation de cette terre de Canaan, qui nous rappelle un peu cette terre idéale du jardin d'Éden où Dieu avait placé Adam et Ève. Et dans cette terre idéale où Dieu place Israël, où Adam et Ève, il y a un choix à faire entre le bien et le mal. Et Adam et Ève avaient l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce choix de manger ou non de son fruit. Et de la même manière, ici, on a le choix entre la bénédiction et la vie, la malédiction et la mort. On sait que le péché va être commis, comme Adam et Ève ont commis un péché, et ils ont mangé le fruit défendu, ils ont été expulsés du jardin, et de la même façon, on sait que Israël va vivre l'exil. C'est un peu dense, c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment fascinant de voir les parallèles entre la fin du Deutéronome et le début de la Genèse, cette unité du Pentateuque, qui pour moi, en fait, reflète un peu cette idée que Dieu donne à Israël comme une deuxième chance. Dieu a créé l'homme pour un certain but. Il voulait le bénir depuis le début. Il voulait vivre une intimité avec lui. Et là, c'est comme si Dieu donnait une deuxième chance à Israël et dit, regarde, ce que je fais pour toi depuis le commencement, c'est mon but. Est-ce que tu vas me choisir? Est-ce que tu vas choisir d'obéir et de vivre en intimité avec moi? Donc c'est un contexte assez fort, assez particulier. Le Deutéronome, maintenant les érudits, un peu les gens qui ont beaucoup étudié le Deutéronome, c'est un peu acquis parmi eux qu'on peut, on peut comparer la structure du Deutéronome, donc ces trois discours de Moïse, avec un traité, donc entre par exemple le roi et son vassal, dans la culture ambiante de l'ancien du Proche-Orient ancien de l'époque. En particulier les traités hittites, donc de 1200 avant Jésus-Christ, ils avaient une structure assez particulière, un titre, un prologue historique qui raconte un peu l'histoire, comment est-ce que ce roi et son vassal se sont rencontrés, quelle est leur relation en fait, les demandes du traité, pourquoi est-ce qu'on fait un traité, quelqu'un veut bénéficier de quelque chose au travers de ça, le dépôt et la lecture du texte, un appel aux témoins dans le contexte du Proche-Orient ancien, souvent c'était des dieux qui étaient pris pour témoins. On demandait parce que c'était un contexte donc polythéiste, et on demandait aux dieux d'être témoins de cette alliance, de ce traité, pour qu'eux puissent aussi énacter les malédictions pour quiconque dévierait du traité. Et juste à la fin, on a les bénédictions qui viennent de l'obéissance au traité. Et donc le Deutéronome, en fait, il suit assez bien cette structure. On a un titre, le début du Deutéronome. On a un prologue historique, donc c'est un traité entre Dieu et Israël. Et le prologue historique, c'est plus ou moins l'histoire de l'Exode, comment Dieu a délivré Israël de la main des Égyptiens. Et ça montre aussi la dépendance d'Israël envers Dieu. Les demandes du traité, c'est les textes de la loi, c'est la révélation de Dieu, ce que Dieu demande à Israël de faire. Et en fait, il leur montre comment vivre en le suivant, en l'honorant. Il y a le dépôt aussi et la lecture du texte. Après, l'appel aux témoins revient plus tard, mais à la place de commencer par l'appel aux témoins et la malédiction, on commence directement par la bénédiction. Je pense que ça reflète aussi le cœur de Dieu, qui il s'empresse pas de parler des malédictions qui viendra si on désobéit, mais son cœur, c'est de nous bénir, c'est de nous faire du bien, parce qu'il nous a créés, et il nous a créés avec un certain but. Et donc, il commence par parler de toutes les bénédictions qu'il veut nous offrir, avant de parler des malédictions qui sont en fait les conséquences de notre désobéissance. Et là, l'appel aux témoins, qui est assez particulière, on l'a lu, Dieu ne peut pas prendre d'autres dieux comme témoins, il ne peut pas se prendre lui-même comme témoin, mais il prend la création à laquelle on ne peut pas échapper non plus, parce que la terre, on la foule tous les jours, on marche dessus, le ciel, on respire de l'air tout le temps, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fonctionne différemment? On ne peut pas échapper au ciel, à la terre en tant que création. Il n'y a rien qui échappe à la création dans un certain sens. Et donc c'est cela que Dieu choisit comme témoin de ce traité entre lui et Israël. Donc voilà, on peut voir un peu la structure du Deutéronome de cette façon. Et là, notre texte rentre un peu dans cette catégorie de l'appel aux témoins et avec des exhortations en même temps. Donc voilà un peu pour un contexte littéraire et contextuel, culturel. Je vous propose de commencer l'étude du texte, donc, des versets 11 à 14. Les commandements que je vous communique aujourd'hui ne sont pas trop difficiles à comprendre, ni hors d'atteinte pour vous. Ils ne sont pas au ciel pour qu'on dise, qui montera au ciel pour aller nous les chercher et nous les communiquer? afin que nous puissions les mettre en pratique. Ils ne sont pas non plus au-delà des mers, pour qu'on dise « Qui traversera les mers pour aller nous les chercher et nous les communiquer ?» Pardon. « Afin que nous puissions les mettre en pratique. » Non, cette parole du Seigneur est tout près de vous, dans votre bouche et dans votre cœur, et vous pouvez la mettre en pratique. Donc on a deux sections qui sont un peu différentes, des versets 11 à 14 et des versets 15 à 20. Cette première section, je l'appelle « La grâce du commandement ». Alors c'est une expression peut-être qui surprend. Quand votre superviseur au travail vous crie dessus et vous dit « Comment faire votre travail et comment vous améliorer ?» Et ce qu'il faut faire, ce n'est pas forcément quelque chose qui fait toujours plaisir. Et pour nous, des fois, on se dit « Mais le commandement, c'est rigide, c'est strict, mais est-ce que ça montre vraiment l'amour de Dieu ?» Donc pour montrer un peu un arrière-plan culturel qui montre en fait la grâce de ce Dieu qui dit comment le connaître, qui se révèle, qui montre aux gens comment le connaître et quoi faire. J'aimerais vous lire une prière qui vient du Proche-Orient ancien, qui est assez particulière, que j'aime beaucoup, mais ça prend un peu de temps. Donc ça prend peut-être 4 minutes à lire. Donc je vous demanderai votre patience. Et c'est une prière donc, qui a été trouvée dans une bibliothèque assez connue du 6e siècle avant Jésus-Christ, mais qui date peut-être avant 2000 avant Jésus-Christ. Donc ça a été écrit avant le Deutéronome et on l'a retrouvé même juste après l'époque du Deutéronome. Ça montre un peu une ambiance culturelle de l'époque, dans un contexte polythéiste où il y a beaucoup de dieux et des fois on n'est pas trop sûr de à qui on doit s'adresser. Donc c'est intitulé « Une prière à un Dieu inconnu ». Que le cœur encoléré de mon Seigneur soit apaisé. Que le Dieu que je ne connais pas soit apaisé. Que la déesse que je ne connais pas soit apaisée. Que le Dieu, quiconque soit-il, soit apaisé. Que le cœur de mon Dieu personnel soit apaisé. Que le cœur de ma déesse personnelle soit apaisé. Que mon Dieu et ma déesse soient apaisés. Que le Dieu qui est en colère et s'est détourné de moi soit apaisé. Que la déesse qui est en colère et s'est détournée de moi soit apaisée. Je ne sais pas quel mal j'ai commis. Mon Dieu n'a pas appelé mon nom avec faveur. Ma déesse n'a pas appelé mon nom avec faveur. Mon Dieu n'a pas mentionné mon nom avec faveur. Ma déesse n'a pas mentionné mon nom avec faveur. Je ne pouvais pas manger le pain que j'ai trouvé. Je ne pouvais pas boire l'eau que j'ai trouvée. J'ai perpétué involontairement une abomination contre mon Dieu. J'ai violé involontairement un tabou à ma déesse. Ô mon Seigneur, nombreuses sont mes fautes, grands mes péchés. Ô mon Dieu, nombreuses sont mes fautes, grands mes péchés. Ô ma déesse, nombreuses sont mes fautes, grands mes péchés. Dieu, qui que vous soyez, nombreuses sont mes fautes, grands mes péchés. Je ne sais pas quelle faute j'ai commis. Je ne sais pas quelle abomination j'ai perpétuée. Je ne sais pas quel tabou j'ai violé. Un Seigneur m'a dévisagé dans la colère de son cœur. Un Dieu me fait faire face à la furie de son cœur. Une déesse s'est enragée contre moi et m'a rendu malade. Un Dieu, quiconque soit-il, m'a critiqué. Une déesse, quiconque soit-elle, m'a rendu misérable. Je n'arrête pas de chercher, mais personne ne m'aide. Quand je pleure, il ne s'approche pas. Quand je me plains, personne ne m'écoute. Je suis misérable, aveuglé, je ne peux pas voir. Tournez-vous vers moi, Dieu de grâce, alors que je vous implore. Je vous fais hommage, ma déesse, alors que je m'abaisse. Ô Dieu, qui que vous soyez, tournez-vous vers moi, je vous implore. Déesse, qui que vous soyez, tournez-vous vers moi, je vous implore. Seigneur, qui que vous soyez, tournez-vous vers moi, je vous implore. Ça se répète un peu. Déesse, qui que vous soyez, tournez-vous vers moi, je vous implore. Ô Dieu, quand pourra votre cœur enragé être calmé? Déesse, quand pourra votre cœur indifférent être apaisé? Ô Dieu, qui que vous soyez, quand pourra votre cœur enragé être calmé? Déesse, qui que vous soyez, quand pourra votre cœur indifférent être apaisé? Les hommes sont simples et ne connaissent rien. Peu importe le nombre de noms qu'ils ont, que savent-ils vraiment? Ils ne savent pas du tout s'ils font le bien ou le mal. Ô mon Seigneur, ne rejetez pas votre serviteur et les coincez dans la boue. Aidez-le. Transformez le péché que j'ai commis en virtuosité. Que le vent emporte avec lui le mal que j'ai fait. Nombreux sont mes crimes, enlevez-les comme un vêtement. Ô mon Dieu, bien que le nombre de mes crimes soit 7 × 7, absolvez-moi de mes erreurs. Ô ma déesse, bien que le nombre de mes crimes soit 7 × 7, absolvez-moi de mes erreurs. Ô Dieu, qui que vous soyez, bien que le nom de mes crimes soit 7 fois 7, absolvez-moi de mes erreurs. Absolvez-moi de mes erreurs, que je fasse retentir votre louange, comme si vous étiez ma véritable mère, que votre cœur soit apaisé. Comme si vous étiez ma véritable mère, mon véritable père, que votre cœur soit apaisé. Alors, avant que certaines personnes soient un peu confus, c'est pas une prière que je vous demande de prier à la maison. C'est une prière qui reflète un contexte du Proche-Orient ancien où des gens, des fois, étaient complètement paumés. Il y a tellement de dieux, les dieux personnels, les dieux locaux, des dieux qui sont censés nous donner la pluie pour faire l'agriculture, des dieux de guerre, des dieux cosmiques qui ont créé le monde. Et des fois, dans ce contexte-là, les gens faisaient face à des difficultés et ils savaient qu'ils avaient offensé un dieu, mais ils ne savaient pas du tout lequel. Et comment trouver le dieu qu'ils ont offensé? Comment trouver quel sacrifice, quel changement faire dans leur vie pour satisfaire aux besoins de ce dieu? C'était quelque chose de compliqué, de infaisable. Et on voit au travers de la répétition aussi qu'il est à bout. Cette personne est à bout. Il ne sait plus comment s'exprimer. Il ne sait pas si c'est un dieu, une déesse à qui il doit parler. Il est complètement paumé. Et au milieu de ce contexte, la loi de Dieu, le commandement de Dieu, qui dit, voilà, je me manifeste à vous et c'est ceci à quoi je m'attends de vous. Ça, c'est juste une révélation de grâce parce qu'on sait ce que Dieu veut de nous et on sait ce à quoi s'attend. Pour nous, le contexte de l'Ancien Testament, des fois, nous est difficile, mais pour eux, la loi de Dieu, c'était une révélation de sa grâce. Et donc, le commandement, il est accessible, il est difficile, il n'est pas difficile à comprendre, il n'est pas hors d'atteinte. Ça fait 3 discours qu'on en parle, Moïse nous a fait tout un atelier, c'est maintenant, on a reçu tout ça, on est déjà à la fin. Il n'est pas au ciel pour qu'on dise qui montrera là-haut, il n'est pas au-delà de la mer pour qu'on dise qui est-ce qu'on enverra là-bas pour trouver ce commandement et qu'on le mette en pratique. Dans le contexte du Proche-Orient ancien, on peut comprendre... que si vous voulez savoir ce que les dieux attendent de vous, il n'y a pas 10 000 façons de s'y prendre. Il faut aller les chercher. Donc si tu veux aller chercher un dieu pour lui demander ce qu'il attend de toi, tu peux essayer de monter au ciel, la demeure des dieux, monter tout en haut, je ne sais pas si tu prends une catapulte ou une fusée, pour aller jusqu'au bout sur la coque où les dieux vivent en haut dans leur vision du monde, pour aller essayer de parler à un dieu si tu es reçu et de revenir miraculeusement. Ou bien tu peux traverser la mer, qui est un symbole en fait dans le Proche-Orient ancien pour la mort. Tu peux mourir, aller rencontrer un dieu, et puis peut-être tu comprendras plus de choses, peut-être si tu es chanceux, tu reviendras. Est-ce qu'il y a un volontaire parmi nous ce matin qui aimerait faire ça pour nous, pour nous aider à comprendre des choses? C'est dans ce contexte culturel, peut-être c'est ça qu'il faudrait faire pour pouvoir connaître la volonté des dieux ou de Dieu. Mais pour Israël, ces thèmes, ces illustrations que Moïse utilise résonnent parce qu'on n'a pas besoin de monter au ciel. Dieu, sur le mont Sinaï, il s'est révélé au travers de la tempête, de cet orage, de cet ouragan, de ces nuages noirs et le tonnerre qui retentissait et la parole de Dieu inscrite sur les tables de la pierre. Dieu est descendu, il s'est manifesté parmi son peuple. Et on n'a pas besoin de traverser la mer et de mourir pour entendre parler de Dieu. Quand les Israéliens étaient au bout du rouleau, face à l'armée de Pharaon, face à une mort certaine, Dieu il a ouvert la mort pour que le peuple d'Israël puisse traverser. Dieu, au travers de sa manifestation et de son salut, se révèle à son peuple. Et son commandement est facile parce que c'est un commandement de grâce. Et on conclut donc au verset 14, « Cette parole du Seigneur est toute près de vous, dans votre bouche et dans votre cœur. » Et vous pouvez la mettre en pratique. Elle est dans votre bouche parce qu'on en parle, on en parle ensemble, on la répète. Ça fait plusieurs jours qu'ils parlaient tous ensemble de cette révélation de Dieu et qu'ils ont parlé avec Moïse. Et quand on se la répète, elle prend place dans notre cœur. Et on peut comparer peut-être ce Deutéronome 30, 14 à Deutéronome 6. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. La parole de Dieu, on en parle, elle siège dans notre cœur et avec l'impact, ça transforme notre être entier, ça nous aide on la met en pratique au travers de notre force, en fait, de tous nos biens, de notre travail. C'est ça un peu le sens du mot force, je pense, dans ce contexte. La parole de Dieu a un impact dans nos vies, et par notre obéissance, on rayonne de la sagesse de Dieu. Donc c'est dans cette première partie, la grâce de la révélation, après des versets 15 à 20, donc une deuxième partie de ce texte où on a une exhortation à faire un choix, à choisir la vie. Israélites, voyez aujourd'hui, je place devant vous la vie et le bonheur d'une part, la mort et le malheur d'autre part. La vie et le bonheur, ce sont des termes qui sont assez clés en fait dans l'Ancien Testament, qui parlent de cette alliance avec Dieu. Le bonheur, c'est pas juste d'être content, mais c'est d'être comblé dans une relation avec Dieu et de vivre de la générosité de Dieu. Et c'est ce choix que Dieu veut que l'on fasse. Ces commandements ne sont pas lourds quand on regarde le bon choix que l'on peut faire et ses conséquences. C'est de prêter attention à Dieu, c'est de l'aimer, c'est de suivre le chemin qu'il nous trace, donc il marche avec nous. C'est de lui obéir, oui, d'obéir à ses commandements, ses lois et ses règles, mais qui sont un joug qui n'est pas compliqué. Et Jésus même dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Il dit, c'est aussi de vivre sous sa bénédiction, de prospérer. C'est le cœur de Dieu aussi de bénir ses enfants. Et de la même manière, le contraste, le mauvais choix, ses conséquences sont dévastatrices et le seront pour le peuple d'Israël. C'est un choix quand même qui est personnel et qui est aussi communautaire pour Israël. Mais à la conclusion, je pense qu'encore le cœur de pasteur de Moïse ressort. Parce qu'il dit, oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui, le ciel et la terre m'en sont témoins. Donc c'est le choix des témoins. Je place devant vous la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Et comme si ce n'était pas assez clair, choisir entre la vie et la mort, le bonheur ou le malheur, c'est pas si difficile, non, n'est-ce pas, un choix à faire. Mais Moïse, il en rajoute une couche, il dit, ben, si ce n'est pas assez clair, je vous le dis, moi, choisissez la vie, c'est ça le bon choix à prendre. Donc c'est vraiment son cœur de pasteur d'Israël qui ressort après des années d'expérience avec Israël et un amour particulier pour ce peuple, je pense. Il clarifie tout parce que lui, il a expérimenté, le Seigneur, il a expérimenté la vie proche de Dieu et c'est ça qu'il souhaite pour les enfants de Dieu. Donc voilà maintenant peut-être quelles applications est-ce que nous, on peut en tirer aujourd'hui. J'ai parlé de beaucoup de choses, du Proche-Orient ancien, et de différentes prières bizarres. Qu'est-ce que nous, aujourd'hui, on peut tirer de cela? Pour commencer, peut-être juste pour vous dire que dans nos contextes évangéliques aujourd'hui, souvent l'Ancien Testament, ce n'est pas une priorité. Et c'est difficile à lire, on ne comprend pas trop. Et des fois, je ne sais pas comment le dire, mais il faut qu'on soit... qu'on nous rappelle que le Deutéronome, que la loi de Dieu, même si ce sont les commandements, c'est la révélation de Dieu, c'est un cadeau pour nous. C'est notre texte à nous aussi. C'était pas juste pour les Israéliens, c'était pour nous aussi, c'est pour nous, pour qu'on puisse apprendre à connaître Dieu. Ça montre la grâce de Dieu, ça nous montre comment vivre, et même des fois la loi, ça nous interpelle, ça nous montre comment vivre de façon généreuse et de façon appropriée socialement envers les autres. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans les textes de la loi et ils doivent être enseignés, ils doivent être prêchés, on doit les lire et en profiter. Et on a beaucoup d'outils aussi qui nous sont donnés pour pouvoir étudier ces textes. Toute la parole de Dieu nous est donnée pour notre enseignement, pour notre instruction. Donc il faut pouvoir s'attacher à ça. La loi de Dieu, c'est une manifestation de sa grâce. Je sais pas quelle heure il est. Mais on pourrait continuer même, voir si on prend le cœur de la loi, peut-être les 10 commandements. Et on peut, c'est facile de dire, oh, les commandements, c'est strict, c'est sévère. Et on a des ordres, on nous donne des impératifs, on nous donne des ordres. Mais on peut toujours rephraser ces textes pour en refaire sortir un peu l'essence aussi, je pense. Et la beauté de ces textes. Donc si on prend les 10 commandements, les 3 premiers commandements, on dit tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi, tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, prends soin de me consacrer le jour du sabbat. ces lois, ces impératifs qui nous paraissent un peu comme des jougs, des fois, on pourrait les rephraser et dire « Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi », ça reflète un des droits de Dieu. Le Dieu créateur qui nous a sauvés, il mérite notre allégeance, il mérite notre dévotion. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, ce Dieu qui nous a créés, il mérite notre respect. Prends soin de me consacrer le jour du sabbat, le Dieu mérite que je consacre mon temps et mes efforts pour lui. » On peut reprendre ce commandement qui continue à dire que tout le monde doit, dans la famille doit observer le jour du sabbat. Et on peut dire que ce sont des droits pour les hommes. Les membres de ma famille, ils méritent d'être bien traités par le chef de famille. Respecte ton père et ta mère. Les parents méritent le respect de leur famille. Tu ne commettras pas de meurtre. Mon voisin a le droit d'exister. Tu ne commettras pas d'adultère. Nos voisins méritent, nos conjoints et nos voisins méritent notre fidélité. Tu ne commettras pas de vol. Nos voisins ont le droit de profiter de leurs biens. Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Les citoyens d'un pays ont le droit à un jugement équitable, qu'ils soient coupables ou non. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Une femme mérite de se sentir respectée, en sécurité. Tu n'envieras rien de ce qui appartient à ton prochain. Une famille a le droit de vivre en sécurité socialement, d'avoir une sécurité sociale. Donc, à cette époque, ça ne veut pas dire forcément la même chose que pour nous. Donc ces textes de la loi qui nous paraissent des fois rigides et stricts, en fait, ils reflètent des principes qui sont importants pour la foi, qui sont importants pour notre relation avec Dieu. Et on a beaucoup de choses à apprendre dans ces textes. Après, parce que ce texte nous parle de la parole de Dieu qui nous est accessible. Elle nous est accessible, elle est là, devant nous, elle est à portée de main, on peut la comprendre. Elle est traduite en français dans plusieurs traductions, vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Et vous pouvez comprendre beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on en profite maintenant, vraiment? La parole de Dieu, elle est sur Internet, elle est sur votre appli, sur le téléphone. Vous pouvez même appuyer Play et puis l'écouter sur le chemin du travail. Mais est-ce qu'on en profite vraiment de la parole de Dieu, de tout ce travail qui a été fait par des traducteurs ou bien par des ingénieurs qui font des applications pour nous, pour nous la rendre accessible? Est-ce qu'on en profite vraiment? Est-ce qu'on communique? Est-ce qu'on étudie sa parole et on s'attache à Dieu de cette façon-là aussi? La parole de Dieu est accessible, mais est-ce que c'est aussi accessible pour tout le monde? C'est aussi ça le travail de traduction de la Bible, parce que c'est ça la beauté de ce texte, de la révélation, que c'est facile à comprendre et c'est à portée de main. Mais il y a toujours des peuples autour du monde qui ne l'ont pas à portée de main et qui ne peuvent pas la comprendre, parce que si elle est traduite dans une autre langue, que peut-être ils comprennent un peu, et ça n'a pas la même valeur, le même impact. C'est comme si je vous disais, certains d'entre vous ont étudié l'espagnol à l'école, essayez de lire la parole de Dieu en espagnol et voir l'impact que ça a pour vous. Le français, c'est pas la même chose quand même, ça communique bien mieux. Donc c'est à nous aussi de nous investir dans ce travail pour rendre la parole de Dieu accessible à tout le monde. Après, le choix entre la vie et la mort, le bonheur et le malheur, je ne sais pas, moi, quelles sont vos circonstances de vie. Des fois, je me sens un peu déconnecté aussi avec la vie en Occident après 3 ans en Afrique. Je n'oserais pas vous dire comment est-ce que vous devez vivre votre vie, mais peut-être ce texte, il peut vous interpeller de façon personnelle. Peut-être qu'il y a quelque chose dans votre vie où vous voyez que vous avez un choix à prendre, un choix entre la bénédiction et la malédiction. Et peut-être on peut prendre un moment maintenant juste pour réfléchir à ce que l'on vit dans nos vies personnelles. Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre vie où vous voyez que Dieu veut vous pousser peut-être à changer quelque chose ou à prendre décision pour changer votre rythme de vie, faire plus de place pour Dieu dans votre vie? Peut-être on peut prendre juste deux minutes, baisser nos têtes et réfléchir à cela. Père, je te loue, je te remercie parce que tu t'es révélé à moi, tu t'es révélé à chacun d'entre nous. Et juste ça, c'est une grâce. Tu nous as donné ta parole, tu nous as sauvés. Des grâces incomparables. Et en réponse à ton œuvre de salut dans nos vies, à ta manifestation, on veut se donner à toi. Moi, Père, je ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur de mon frère, de ma sœur ici. Je ne sais pas ce que tu veux leur dire. Je sais ce que tu veux me dire. Et je veux me consacrer à toi, répondre à ton appel et choisir la vie tous les jours. Repenser à ces choses dans ma vie qui te déplaisent, que tu puisses m'aider à comprendre, peut-être au travers de la lecture de ta parole, au travers de la communion fraternelle avec les frères et les sœurs, que tu puisses nous aider à t'honorer, à choisir la vie, à honorer ce Dieu qui nous a tant donné. Père, notre prière, c'est que tu sois honoré dans nos vies, sur cette terre, dans cette création que tu as faite. Tout ce qui est sur cette terre, c'est toi qui le mérite, c'est à toi que ça appartient. Nous aussi, on t'appartient. Sois honoré, sois loué par notre réponse et par notre vie de tous les jours. C'est notre prière, dans le nom de Christ.